je suis Coraline et environ une fois par mois, je te propose un épisode autour de la stérilisation. Le podcast Stérilisez-moi, c'est un espace de parole dans lequel des personnes de tout âge et tout milieu viennent échanger autour de leur choix de contraception, j'ai nommé la stérilisation. Ces discussions ont pour but de mettre en avant la diversité des parcours autour de la stérilisation à visée contraceptive, mais aussi d'aider toutes celles qui s'identifieront dans le parcours des personnes que j'interviewe. Pour soutenir le podcast, tu peux t'inscrire au compte Instagram Stérilisez-moi et partager les publications. Tu peux également t'abonner au podcast et t'inscrire à la newsletter pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Ton soutien sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux est précieux. Il permet d'étendre la diffusion du podcast et ainsi de toucher plus de personnes en quête d'informations concernant la stérilisation. Je te rappelle enfin que sur le site stérilisez-moi.fr, tu as accès à de nombreuses informations pratiques et légales concernant la stérilisation, ainsi qu'à une liste de praticiens qui pratiquent cette intervention. Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast. Je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute. Pascaline a 37 ans. Elle est maman de deux enfants et se trouve en situation de handicap. Elle est à la recherche d'un gynécologue pour réaliser un parcours de stérilisation et se retrouve confrontée à un problème d'accessibilité dû à sa condition. Elle nous raconte les obstacles auxquels elle fait face pour obtenir des soins médicaux et gynécologiques. Elle nous explique les différences entre les fauteuils roulants manuels et les fauteuils électriques et les difficultés que rencontrent les personnes qui ont besoin d'un fauteuil électrique. Elle nous parle également de la remise en question systématique de ses choix par le personnel médical, mais aussi par la société de façon plus générale. Elle évoque le manque d'accessibilité partout et le sentiment de ne pas exister, le fait que la santé des personnes en situation de handicap se dégrade par manque d'accès aux soins, mais aussi la non prise en compte de la qualité de vie des personnes en fauteuil et l'obsession du corps médical pour la marche. C'est un épisode long et très dense en informations, cependant je n'ai pas souhaité le diviser, tout d'abord parce qu'il est passionnant, mais aussi parce que, comme explique Pascaline dans l'épisode, il est important de comprendre les problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap dans leur globalité pour comprendre la situation qu'elles traversent dans le cadre de la stérilisation. Je vous conseille vraiment d'écouter cet épisode, surtout si vous êtes valide, comme moi, mais aussi de le partager car il permet d'ouvrir les yeux sur ce que traversent les personnes en situation de handicap et ainsi de se sensibiliser un peu à leur cause. J'espère que cet épisode vous donnera d'autres perspectives sur le handicap et qu'il vous donnera envie d'essayer, à votre échelle, d'améliorer le quotidien des personnes concernées. Belle écoute!
Bonjour Pascaline, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs?
Alors, je m'appelle donc Pascaline, j'ai 37 ans, j'habite en Lorraine. Je suis maman de deux enfants, une petite fille de 13 ans et un petit garçon de bientôt 11 ans. Et je suis donc en situation de handicap, notamment en fauteuil roulant électrique.
Ok, ben merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu veux bien du coup nous expliquer comment tu as découvert la stérilisation volontaire? Et comment ça se passe concrètement pour toi dans ton parcours?
Alors, j'ai découvert ça il y a quand même pas mal d'années, je ne sais plus trop comment, parce qu'étant donné que j'ai énormément d'endométriose et tout ce qui va avec, une fois que j'ai eu mes enfants, j'ai été mise sous l'utérin en continu. Et ce n'est pas une solution qui me convenait. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, mon utérus, il a servi, je n'aurai jamais de troisième enfant. Et au moins, voilà, ça me permettait d'arrêter d'avoir mes règles et d'être stérilisée à la fois. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un petit peu compliqué de faire ce type d'opération. Moi, juste la ligature des trompes ou tous les... En fait, juste la stérilisation en elle-même, ça m'intéresse, mais en fait, on ne réglera pas le problème de règles douloureuses, de règles qui durent pendant 3 semaines, de règles hémorragiques, tout ça. Donc du coup, au final, je ne me vois pas rester avec mon utérus. Et j'ai su il y a quelques temps que, voilà, de toute façon, ça fait quelques années qu'on a des gros problèmes avec l'utérin et médicaments associés, et entre les ruptures, et on savait que planait le doute d'un jour un arrêt total de fabrication. Donc voilà, depuis 2-3 ans, je me suis dit, il va vraiment falloir que je regarde du côté... Enfin, de ce côté-là, quoi, d'avoir une solution définitive, en sachant que voilà, de toute façon, je suis en fauteuil, j'ai une maladie génétique, j'ai déjà 2 enfants. Enfin, un troisième, c'est impossible. Je n'ai ni l'envie ni les capacités physiques. Et c'est là où, en voulant reprendre un parcours gynéco, je me suis rendu compte que, en fait, étant en fauteuil roulant électrique, c'est quasiment impossible, en fait. Que ça soit par le manque d'accessibilité physique. Là, beaucoup de cabinets ont typiquement une marche pour pouvoir rentrer. Moi, s'il y a une marche, je ne peux pas rentrer dans le cabinet. ou par manque de connaissances ou considérations de la part des médecins eux-mêmes, quoi, y compris à l'hôpital, où c'est très compliqué quand on arrive avec un fauteuil roulant. En fait, on n'est plus une personne, on est une personne lourdement handicapée. Et ça pose énormément de soucis, surtout voilà, dans tout ce qui est médical, surtout gynéco et parentalité. Donc pour l'instant, j'en suis au point où je cherche un gynéco qui va me trouver une solution de remplacement de l'utérin avant une potentielle opération. Et pour l'instant, je ne trouve pas de gynéco qui veut d'une personne en fauteuil roulant.
Oui, tu m'as expliqué que tu as déjà contacté plusieurs gynécologues de la liste par rapport à la stérilisation. Et voilà, à chaque fois, on te dira peut-être, c'est pas sûr. Et puis finalement,
C'est
on te
ça.
rappelle en disant qu'avec le fauteuil, c'est pas possible.
C'est ça, avec des phrases du genre, on ne prend pas ce public-là.
Ok.
Je
Quand
suis
même,
quel public?
ouais.
On m'explique, je suis quel public? Ou alors des, ah non, mais ça ne va pas être possible, vous ne vous rendez pas compte, c'est trop compliqué. Oui, enfin, en vrai, on parle juste d'un fauteuil roulant, enfin, on parle pas. Il y a vraiment des fois, je me dis, soit j'ai la peste, soit je me balade avec un lion sauvage. J'ai eu, voilà, j'ai eu quand même. Donc du coup, je n'ai plus aucun suivi gynéco depuis que je suis en fauteuil. Mais je pense comme la quasi-totalité des femmes en fauteuil, en fait. Je suis vraiment, enfin, dans mes discussions et dans les personnes que j'ai trouvées, je suis loin d'être la seule. Et les questions qu'on nous pose sont toujours un peu. Enfin, c'est des questions qu'on ne pose qu'aux personnes en fauteuil, du genre mes enfants, voilà, tout le monde veut savoir si j'ai eu mes enfants avant ou après être en fauteuil. Comme si ça changeait. Enfin, je ne vois pas en quoi ça change grand-chose que j'ai eu avant ou après. Même les médecins, voilà, le peu de médecins avec qui j'ai réussi à parler, voilà, de la stérilisation, tout ça, c'est toujours. Alors, je pense que c'est aussi des choses qu'on dit aux valides, hein. Mais est-ce que votre conjoint, il est d'accord? Est-ce que vous êtes sous. Nous, on a toujours le truc d'être sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale qui revient. Parce que pour beaucoup de gens, handicapé égale pas autonomie de décision. Et ça, faut toujours que j'explique voilà, que je ne suis pas. Enfin, que j'ai tous mes droits citoyens et que, à part que la société ne me les donne pas, légalement, je les ai encore. Et voilà, les questions qui reviennent quand je dis. Parce que je suis obligée, en fait, de le dire au secrétaire, parce que même quand il y a écrit accès handicapé, en fait, ça ne veut rien dire. C'est que, surtout dans certaines régions, le cabinet en lui-même va être aux normes. Mais par contre, pour pouvoir accéder au bâtiment, on va avoir une marche ou une porte trop étroite. Ou alors, on va vous dire deuxième étage avec ascenseur, mais en fait, l'ascenseur est trop petit pour rentrer en fauteuil. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher et arriver au rendez-vous en fait en fauteuil. On est obligé de le dire avant. Et ce que je fais aussi en général avant, c'est de regarder sous Google Maps pour voir un peu l'accessibilité déjà du bâtiment. Parce que si je vois qu'il y a 10 marches pour arriver à la porte d'entrée, je sais que d'avance, ça ne sert même à rien que je téléphone parce que je ne pourrai physiquement pas y aller. Du coup, ce n'est pas quelque chose que je peux cacher aux professionnels de santé. Et on va dire arriver comme un cheveu sous la soupe, et à ce moment-là, il serait quand même obligé de me prendre. Donc à chaque fois quand j'appelle les secrétaires, c'est toujours, j'ai vraiment l'impression de, ah oui, alors attendez, ça va être compliqué, il faut que je voie avec le médecin, alors comment on va faire? Ah ouais, mais il y a une porte, ah oui, mais comment vous allez vous transférer? Ah mais par contre, le docteur ne veut pas de personne en salle de consultation, ah oui, mais du coup, ça va pas être possible. Enfin vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc. Déjà qu'elles n'ont jamais vu, et puis vraiment, on a une image de la personne en fauteuil roulant qui est quand même assez désastreuse. Donc pour
Et puis
l'instant,
c'est
je ne suis
fou.
même pas arrivée à avoir un rendez-vous.
Wow, c'est terrible. Et puis surtout, c'est fou parce que, voilà, enfin, en tout cas, pendant, enfin, je sais qu'il y a quelques années, ils ont tellement mis l'accent sur, enfin, le gouvernement français sur rendre les espaces publics et le maximum de choses adaptées pour les personnes en fauteuil. Et voilà, créer une accessibilité. Et au final, comme tu dis, voilà, il y a certains cabinets qui sont officiellement. Adapté pour les fauteuils, mais qui en réalité, c'est pas le cas. Et puis, même comme tu dis, c'est que finalement, même s'ils ont toute l'infrastructure, on va dire, physique du cabinet qui est adaptée, si par exemple, ils n'ont aucun matériel pour transférer finalement sur une table d'auscultation, bah, au final, leur cabinet n'est pas du tout adapté, quoi.
Non, c'est ça. Alors du coup, moi, ça va, je peux encore me débrouiller. Mais si on veut vraiment un cabinet accessible avec un matériel qui est fait pour les personnes en fauteuil, je crois qu'il y en a deux en France.
Ah
Et je ne
ouais.
pense pas qu'ils s'occupent de la stérilisation. Donc voilà, il y a ça, mais même les mammographies, hein, pour aller à un mammographe, enfin, c'est quasi impossible. Là, moi, j'ai eu, bah, comme je pense toutes les femmes d'un certain âge, la campagne pour le cancer du col de l'utérus. Donc avec une jolie convocation, machin, j'ai appelé, on m'a dit, ah ben non, désolé, c'est pas accessible. Ben, dans
Ouais.
quoi vous faites une campagne si jamais il y a une partie de la population qui est pas, qui ne peut même pas y aller, quoi. Et c'est ça, enfin, c'est. Alors, et vu qu'en plus, c'est pour tout que c'est comme ça. Et la loi, elle date de 2005. Donc, depuis 2005, tout lieu recevant du public est censé être accessible. Mais bon, comme en France, on a bien l'habitude, dans la loi, après, il y a toutes les petites astérisques pour pas respecter la loi. Et une des choses qui fait le plus de mal au niveau accessibilité, ça reste les bâtiments de France et les monuments historiques. Bon, en fait, dans une ville comme là où je vis, on ne peut rien toucher. On ne peut rien toucher et du coup, bah, même pas la moindre marche, on ne peut pas mettre même une rampe amovible. Donc actuellement, on a des cabinets médicaux qui s'ouvrent et qui ne sont pas accessibles. Alors oui, le cabinet est étonnant, mais en fait, on ne peut pas y accéder. Et après, il y a aussi un très très grand manque de formation de la part du personnel médical, quoi, où vraiment on sait hein, que de toute façon, là, surtout, alors il y a deux populations chez les handicapés où principalement il y a des grosses, grosses carences, c'est tout ce qui est handicap mentaux et fauteuil roulant, quoi. Où pour se faire soigner, c'est extrêmement compliqué, et qu'après, voilà, il y a cette notion de consentement et de pouvoir réfléchir par soi-même, qui est quand même un peu compliqué, quoi. Ou à partir du moment où on a une reconnaissance handicap, qu'on a une auxiliaire de vie, qu'on a un fauteuil roulant, enfin des gros fauteuils roulants, les médecins doutent énormément de notre capacité à prendre des décisions, quoi. On va
Mais
sûrement.
c'est fou parce que j'imagine que vous avez un. Enfin, tu me diras si j'ai tort, mais j'imagine que dans le cas justement d'une personne qui serait sous tutelle, c'est parce qu'il y a eu quand même un suivi qui a décidé finalement que la personne nécessitait une tutelle. Mais du coup, si tu n'es pas sous tutelle, c'est parce que tu n'as pas besoin en fait. Donc, je
Non.
ne comprends pas ce qu'il y a de difficile à comprendre dans non, je ne suis pas sous
Ben
tutelle.
ouais,
Donc.
mais je pense que c'est, comme on dit, c'est, enfin, c'est. En fait, depuis l'enfance, on nous dit qu'on n'a pas notre place dans la société. Donc, les gens, enfin, combien il y a d'enfants en fauteuil ou avec un handicap lourd qui est scolarisé en classe ordinaire? Très peu. Et encore plus dans l'école du quartier. Donc, depuis, en fait, depuis la maternelle, les enfants, ils ont grandi sans handicapés autour d'eux. Du coup, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils n'ont que ce qu'on a bien voulu leur montrer. Et qu'est-ce qu'on montre? On montre des gens en institution, on montre des gens sous tutelle, curatelle, habilitation familiale, on montre des gens. Enfin, l'handicap moyen, on va dire, il n'intéresse pas. Hein. On le voit rarement à la télévision. Ce n'est pas vendeur. On fait des grandes campagnes pour les aidants familiaux, alors qu'on ne va jamais poser la question à la personne handicapée, qu'est-ce que ça fait d'être obligé de dépendre d'une personne parce que la société n'est pas adaptée? Et quand on va râler, on nous dit non, mais on va pas tout adapter pour trois personnes en fauteuil. Enfin, et ça va quand même, c'est pas grave, tu vas ailleurs. Si le magasin là n'est pas accessible, t'as qu'à aller ailleurs. Mais en fait, du coup, c'est un vrai problème de société. Et moi, j'ai l'impression depuis 10 ans que je suis en fauteuil que l'accessibilité recule, l'intégration recule. Contrairement à ce qu'on veut bien nous montrer, il y a des trucs où, enfin, il y a des trucs complètement what the fuck où maintenant dans les TER de Lorraine, la place handicapée a été remplacée par les places vélo, donc on est au milieu des vélos. Et s'il y a
Ah
trop
oui.
de vélos, eh ben on nous dit prenez le prochain.
Ah ouais, d'accord.
Alors, je veux
Donc
bien
c'est
qu'il y ait de la
vraiment.
logique, je veux bien qu'il faut une place pour les vélos dans les TER, mais on ne remplace pas la place des personnes en fauteuil par des vélos. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire un peu partout. Hein. Il y a eu des nouvelles lignes SNCF, Ouigo qui se sont ouvertes pour réhabiliter des vieux trains, écologie, machin et tout. Ces lignes-là ne seront jamais accessibles puisque les trains sont, enfin, l'ouverture des trains des années 50 sont trop étroites. Et quand on leur dit ça pose pas un souci, ben non, c'est l'écologie. Alors, et ça, c'est pareil. Depuis qu'il y a un grand mouvance écolo, vélo, tout ça, on nous enlève encore du territoire, on nous enlève encore de l'accessibilité. Et donc, c'est vraiment, enfin, je veux dire, le médical, c'est représentatif, en fait, vraiment de la société où on n'a pas de place. Jamais vous allez dans une salle d'attente, que ça soit à l'hôpital ou chez votre généraliste ou dans n'importe quelle salle d'attente médicale, il n'y a jamais un emplacement fauteuil. Moi, je ne sais jamais où me mettre. Je suis toujours au milieu du passage, je suis tout le temps en train de bouger, je suis toujours en train de gêner des gens. J'ai pas de place en salle d'attente, y compris à l'hôpital, y compris dans des services où on doit être au moins une personne sur deux en fauteuil à y aller. Il n'y a pas une place faite pour nous.
Ouais, c'est faux parce qu'au final, fin, quand ils pensent mettre, fin, par exemple, je ne sais pas, faire un espace où tu mets pas, il y a une chaise que tu enlèves pour pouvoir laisser la place pour une personne en fauteuil, c'est pas difficile à faire. Mais en fait, c'est ça, c'est que vu que les gens voient tellement pas souvent des fauteuils que ça leur vient même pas à l'idée, en fait, j'imagine.
Non, mais c'est
Mais
ça.
Après, enfin, oui, puis dans le domaine du médical, je me dis quand même, techniquement, il y a censé, enfin, dans le domaine du médical, techniquement, ils doivent voir quand même assez régulièrement des personnes ben, en fauteuil, puisque les personnes en fauteuil, elles peuvent tomber malades aussi, comme n'importe quelle autre
bah,
personne,
en fait. Il n'y a rien qui est prévu pour les personnes en fauteuil. Vous partez avec le SAMU ou les pompiers, bon, on ne prend pas votre fauteuil, donc vous arrivez à l'hôpital, vous êtes totalement dépendant des gens, même pour aller aux toilettes. Quand mes enfants, par exemple, si mes enfants doivent partir avec le SAMU ou les pompiers, ben moi je peux pas monter dans le camion avec eux. Donc après, la grosse question, c'est comment aller de chez moi à l'hôpital. J'ai de la chance, si c'est en journée, j'ai le tram. Encore faut-il que la rampe du tram fonctionne. Si c'est, je sais pas, s'ils partent à 23h, et ben je ne pourrai les rejoindre qu'à l'ouverture du tram le lendemain.
Wow.
Parce qu'on peut pas me prendre. Arrivé aux urgences pédiatriques, il n'y a pas de salle, en tout cas celle que j'ai déjà testée avec mes enfants, mais je pense que c'est à peu près partout, hein, parce que je pense pas qu'il y aurait... Si, il y aura toujours l'hôpital qui fait bien, hein, mais globalement, je pense que c'est partout pareil. Il n'y a pas de salle de soins pédiatriques où un fauteuil rentre. Enfin, rentre dans des bonnes conditions, parce qu'après, oui, en bougeant le lit, en bougeant tout, j'ai fini par pouvoir rentrer avec mon fauteuil. Et quand l'enfant doit rester une nuit aux urgences, comme ça arrive souvent, les urgences pédiatriques, on garde souvent les enfants une nuit pour vérifier que tout est OK, ben moi, je ne peux pas y aller. Donc, on est obligé de me trouver un endroit dans l'hôpital avec une chambre double pour pouvoir que mon fils ou ma fille ait un lit et que moi, je puisse rentrer avec mon fauteuil. Parce que ça n'a pas été prévu qu'on peut être parent et avoir des enfants. Enfin, un parent et être handicapé.
Wow. Ouais, c'est... Ou même, et j'ai même envie de dire, ou même que l'enfant puisse être en fauteuil.
Bah, je pense que les fauteuils pédiatriques sont beaucoup plus petits, donc eux, ils doivent passer.
Ouais.
Après, il y a dans le monde des personnes en fauteuil, il y a plusieurs mondes différents. Il y a le monde qui est des personnes en fauteuil manuel, que moi, ça, je ne connais pas au quotidien. Donc, c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. Mais un fauteuil manuel, il va se mettre dans une voiture classique. S'il y a une marche avec de l'aide, il va pouvoir passer, on va dire. Il est beaucoup plus étroit, donc il va passer dans des portes des vieux bâtiments, par exemple. On peut porter la personne avec son fauteuil, même si c'est très dangereux, mais c'est possible. Et après, il y a vraiment le monde du fauteuil roulant électrique, du gros fauteuil roulant, multiposition comme moi j'ai. Où là, c'est des fauteuils qui vont faire 65 cm de large, 1,10 m ou même 1,30 m de long, qui vont peser 180 kg, où donc, du coup, en fait, la moindre marche, on est coincé, on ne peut pas prendre de taxi, on ne peut pas monter dans la voiture d'une amie ou d'une connaissance ou d'un voisin, parce que moi, pour pouvoir mettre dans une voiture, bah, il faut une candine, enfin, je ne sais même pas les combos, mais candissure, voyageur, espace, hein, toutes ces grosses voitures comme ça, et encore, il faut qu'elles soient aménagées avec une rampe électrique et des attaches taxi. Donc, en fait, moi, quand on me dit « t'as qu'à prendre un taxi », bah non, je ne peux pas prendre un taxi. Il faut que je prenne un taxi TPMR qui soit assigné une convention taxi, mais à l'endroit où j'habite, par exemple, je n'en ai pas trouvé. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, depuis 3 ans, je n'ai pas trouvé. Mais sinon, du coup, c'est des transporteurs privés, des transporteurs TPMR qui prennent des fortunes. J'ai eu des devis, voilà, pour faire 20 km, j'en ai pour 300 euros.
Ouais, quand même. Ok.
Voilà, et à Paris, on a G7 Access, mais je crois qu'il y a une dizaine de G7 Access pour toute la région parisienne. Et du coup, même quand on réserve, en fait, on n'a pas une réservation. Si on réserve pour 7h30, c'est pas on vous envoie le taxi G7 Access à 7h30, c'est on appelle les taxis qui sont en l'activité à 7h30 pour qu'ils viennent vous chercher. Donc, on peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, même pour les rendez-vous médicaux, eh ben, en fait, on est vite coincé parce que les transports en commun, on oublie un peu. Ou alors, c'est très compliqué en général. Moi, j'essaie de faire… je n'aime pas dépendre des gens, donc je me débrouille en transport en commun, mais c'est très long, compliqué et très cher. Soit, effectivement, on peut, dans certaines situations, avoir des bons de transport. Mais soit on ne trouve pas effectivement du coup de taxi conventionné TPMR, soit effectivement on prend des ambulances, mais dans ces cas-là, limite il n'y a pas d'attache taxi et tout, et surtout on dépend de gens qui viennent nous chercher un peu quand ils veulent et qui nous ramènent un peu quand ils veulent. Donc on peut arriver 2 heures en retard au rendez-vous et attendre 4 heures arrivées là-bas pour que l'ambulance vienne nous rechercher. On n'est pas du tout… Oui, on dépend toujours de gens qui, où le système a fait qui ne peuvent pas s'occuper de nous, parce que je ne pense pas que ça éclate les ambulanciers de nous laisser attendre 4 heures, mais vu qu'ils ne peuvent pas rester sur place, nous attendre, eux, ils font leur planning et ils viennent nous chercher entre deux trucs, quoi, quand ils ont le temps.
Ok, ouais. Bah, c'est super intéressant, enfin, déjà que tu nous as expliqué la différence finalement entre les fauteuils pliants et puis les fauteuils électriques, parce que c'est vrai que… Enfin voilà, c'est pas quelque chose auquel je pensais. J'avais conscience que de toute façon un fauteuil c'était inconvénient, mais ça pouvait poser plein d'inconvénients. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément en tête qu'il puisse y avoir des différences, par exemple, si flagrantes entre deux types. Et puis du coup de comprendre un peu la temporalité finalement pour les personnes comme toi, parce que c'est ça au final, c'est un rendez-vous médical, ça veut dire qu'il faut que tu appelles le taxi des heures en avance et après une fois que ton rendez-vous est fini il faut que tu attendes encore plusieurs heures avant de rentrer chez toi ou alors que tu réussisses à prendre les transports mais j'imagine que voilà comme tu disais ça doit être long, compliqué
Ah oui,
et
oui,
pas
et puis
forcément
après il y a le problème que les fauteuils roulants électriques ne sont pas étanches à la pluie. Donc normalement quand il pleut on ne peut pas sortir. Sauf que quand vous prenez un rendez-vous médical 9 mois à l'avance, vous ne savez pas s'il va pleuvoir ou pas ce jour-là. Et ça m'est du coup arrivé de devoir annuler des rendez-vous parce qu'il pleut, ou même en mettant une bâche sur mon fauteuil, ce n'est pas gérable, je ne peux pas sortir de chez moi.
Wow. Ouais,
et pour des fauteuils à 20, 25 000 ou 30 000 euros, j'entends, pas pour des premiers prix. Moi, mon fauteuil, personnellement, il m'a coûté 19 000 euros. Il n'est pas étanche. Normalement, il ne roule pas au-delà de 30 degrés parce qu'il n'est pas fait pour résister à la chaleur. J'ai une autonomie qui est limitée parce que ça aussi, je pense que c'est quelque chose que les valides n'ont pas conscience. Notre fauteuil ne roule pas la journée. On ne part pas le matin et on revient le soir. Il faut calculer nos trajets en fonction des capacités d'autonomie de la batterie. La batterie, suivant les fauteuils, elle a entre 10 km et 30 km d'autonomie. On roule ou qu'on ne roule pas. Donc, par exemple, dans un trajet en train, il faut couper son fauteuil roulant pendant le trajet en train parce que sinon, la batterie, elle ne va pas tenir la journée. Donc, c'est vraiment une façon de vivre qui est complètement différente où on va calculer l'autonomie de notre fauteuil, là où on doit aller. Est-ce que le trajet, on peut le faire Google Street, ça a révolutionné le truc. Hein. Tous mes trajets, j'ai fait d'abord en Google Street pour savoir si c'est roulable en fauteuil. Après, je regarde les transports en commun. Je réserve à l'avance puisque SNCF, c'est entre 48 et 24 heures à l'avance. Je me renseigne dans la ville où je dois aller. Est-ce que les transports type bus et tout, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les rampes fonctionnent? Les arrêts, parce que quand on vous dit, par exemple, dans toutes les villes, il y a un pourcentage d'arrêts qui est accessible. C'est jamais 100% du réseau. Donc, ça, voilà, il faut le prévoir. Donc, quand je prends avant de prendre un rendez-vous médical, je vais d'abord en amont faire toute la recherche. Est-ce que je peux y aller? Parce qu'il y a des endroits où je ne peux pas y aller, où il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, et pour aller avec un bon transport, c'est extrêmement trop compliqué. Ou alors que ça va me prendre trop de temps, et que du coup, connaissant la capacité d'autonomie de mon fauteuil, je risque de tomber en panne de batterie. Et ce n'est pas comme sur les smartphones ou tout autre truc comme ça, on branche, on recharge un peu, puis on repart après. Non, c'est des cycles de charge. Donc moi, mon fauteuil a un cycle de charge de 12 heures. Donc à partir du moment où il est branché, je ne peux pas le débrancher avant 12 heures.
Wow.
Donc, si je me branche, je suis passé 12 heures.
Du coup, c'est toute une charge mentale de tout organiser dans les moindres détails en avance. Et au final, même si un cabinet médical il est adapté pour les fauteuils, potentiellement, tu ne pourras pas y aller parce qu'il y a quelque chose sur le chemin qui fait que tu ne pourras pas y aller, quoi.
Ah oui, wow. Et alors, je crois que notre bête noire, c'est les retards. Parce que, voilà, moi, alors, parce que mon père a énormément de temps, hein, vous vous doutez bien que, voilà, moi, déjà, pour le train, il faut que j'arrive une demi-heure à l'avance à la gare, sinon, on ne me monte pas dans le train. Donc, j'ai un train à 7 heures. Bon, moi, déjà, j'ai réservé 48 heures à l'avance. Je vais arriver à 6h30 à la gare. Donc, déjà, je perds une demi-heure. On me met dans le train, on me descend du train, tout ça, je vais à mon rendez-vous. J'ai forcément dû prendre beaucoup de marge en fonction du rythme des trains. S'il y a un train toutes les heures ou un train toutes les demi-heures, je ne vais pas prendre le même temps de marche parce que l'accès au train ne nous est pas garanti. On réserve un créneau sous réserve qu'on puisse nous mettre. Donc, ça m'a déjà arrivé qu'on me mette dans le prochain. Donc, je peux pas. Voilà, je suis obligée d'anticiper énormément, de prendre énormément de marge pour être sûre d'arriver à l'heure à mon rendez-vous. Et aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que voilà, je me dis, bon, le médecin, il peut avoir, je demande toujours au secrétaire la moyenne de retard. Bon, si le médecin, il a 2 heures de retard, je vais prendre 2 heures, plus 1 heure, plus une machin. Même trajet qui aurait pris, enfin, le même circuit qui aurait pris peut-être 2 heures pour un valide, en fait, moi, ça va me prendre ma journée, quoi. S'il n'y a pas de couac.
Wow. En fait, c'est ça, c'est que tout. Fin... Finalement, toutes les petites choses qui peuvent être agaçantes quand on est valide, justement, et des retards, ou même le retard du médecin et tout, en fait, c'est même pas agaçant de prendre quelqu'un comme toi en fauteuil, c'est juste un cauchemar, parce qu'en fait, ça t'oblige à tout, enfin, ouais, à penser à tout, comme tu dis justement, à passer ta journée pour un rendez-vous, et à prier qu'en plus, l'autonomie de ton fauteuil va te permettre d'aller jusqu'au bout. Wow. C'est.
Ah ouais, c'est. C'est oui, c'est et en plus voilà, il faut pas que ça soit un jour où le temps il est mitigé et que j'ai 6 km à rouler en fauteuil parce que dans ces cas-là, il faut aussi que je calcule la pluie. Donc heureusement, on a Météo France et d'autres applications qui nous donnent la pluie dans l'heure. Donc du coup, voilà, je sais que s'il pleut de telle heure à telle heure, il va falloir que je trouve un abri. Donc pareil, mais ça c'est tous des trucs que j'anticipe en fait sur Google Street. Que je regarde, voilà, je ne pars jamais loin quand je sais qu'il y a des temps mitigés. Donc suivant les régions, ça peut être compliqué quand même de poser des rendez-vous, mais c'est aussi le fait que tout ce qui est bon transport, enfin tout ce qui est transport médicalisé, que ça soit VSL, ambulance et tout, soit pas performant, parce que si on pouvait donner une heure de rendez-vous, qu'on vienne nous chercher avant et qu'on vienne nous chercher après, ça enlèverait quand même une partie du stress, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à part les endroits où je ne peux pas y aller physiquement en transport en commun, finalement, je ne gagne pas de temps à prendre un VSL ou un ambulance ou autre. Par contre, pour la sécurité sociale, ça coûte beaucoup, 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 beaucoup plus cher pour un service qui est quand même hyper maltraitant. Parce que souvent, quand même, dans beaucoup de pathologies, on est quand même très fatigable et tout. Nous laisser attendre 4 heures à l'hôpital, c'est quand même un peu long, quoi.
Oui, puis en plus, au final, j'ai envie de dire, c'est pas respectueux. Alors, je comprends que forcément, il n'y en a pas beaucoup, donc ils font comme ils peuvent. Mais au final, c'est pas respectueux des personnes, parce que vous n'êtes pas des objets qu'on peut poser dans un coin. Vous avez une vie aussi, vous avez des choses à faire, de fatiguer.
Et le pire, c'est les personnes âgées en fauteuil. Alors eux, moi, quand je vois la maltraitance qu'ils subissent et qui, à mon avis, ils n'ont même pas conscience, où on les pose dans un coin du couloir et puis pendant 4 heures, ils attendent leur ambulancier là. Enfin, et ou alors voilà, les personnes qui sont en fauteuil manuel mais qui sont pas autonomes pour le pousser et qui vont attendre un fauteuil électrique ou genre de choses. Mais c'est des paquets de lessifs, quoi. On vous les pose dans un coin et puis on s'en occupe plus. Mais ça, c'est pareil. C'est aussi le fait que pour beaucoup de gens, une personne en fauteuil n'a pas de vie de famille, n'a pas d'obligation, ne travaille pas. En fait, on en revient toujours au même problème, c'est qu'on n'apparaît pas dans le paysage. Enfin, moi, j'habite une grande ville, on est 3 en fauteuil, je pense qu'on est beaucoup plus, hein, puisque les statistiques ne mentent pas, mais je croise toujours, on est 3 à se croiser, les autres, je ne sais pas où ils sont. Parce qu'en fauteuil roulant électrique, on a environ 10 000 personnes. Donc, on devrait avoir un statistique quand même en croisé. Et en fait, quand vous prenez votre train ou quoi, finalement, on n'en croise pas tant que ça des gens au fauteuil. Que ça soit dans le RER, que ça soit dans les bus, que ça soit... Oui, quand vous vous promenez, si vous faites le ratio, vous croisez toujours les mêmes. Dans une ville, on connaît les gens au fauteuil. Alors qu'à mon avis, on est bien plus.
Ouais, mais comme tu disais, vu que les transports, au final, c'est jamais complètement adapté... Je sais que oui, cet été, j'ai vu sur Instagram, Il y a une Instagrammeuse qui s'appelle, enfin son compte, c'est la fille qui a des taches. Et elle est très amie avec une autre Instagrammeuse qui, elle aussi est en fauteuil. Elle est en fauteuil électrique aussi, si je ne me trompe pas. Et en fait, elles sont parties en vacances pendant l'été en train. Et elles étaient outrées parce qu'en fait, justement, son amie, elle a dû rester à côté des valises. Parce qu'en gros, c'était le seul espace qui était adapté pour
Le
les
seul
fauteuils.
espace.
Et donc, elle était comptée comme une valise, en fait. Et,
C'est ça. Dans les TGV, on peut mettre que deux fauteuils électriques, enfin deux fauteuils. On est forcément en voiture 1 ou en voiture 3 ou alors en voiture 11 ou en voiture 13, puisque c'est en première classe. Donc il y a une voiture en fait par train avec deux places maximum. Et en fait, on est calé à l'endroit des valises. Par contre, on la paye notre place, hein. On paye notre place comme tout le monde. C'est dans certains cas, avec certaines cartes CMI, on peut avoir une réduction pour notre accompagnateur. Mais par contre, moi, ma place à moi, je la paye comme tout le monde et je suis au milieu des valises. J'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de trajets en TGV. Je pense que 90% du temps, les toilettes ne fonctionnent pas. Les toilettes de cette voiture-là ne fonctionnent pas, donc on ne peut pas aller aux toilettes. J'ai toujours été mis au milieu des valises, sans compter, voilà, les valides qui vous mettent bien les valises tout autour, comme ça, vous ne pouvez plus bouger. Et après, voilà, mais même le système de réservation SNCF n'est pas prévu pour qu'une maman puisse, un maman en fauteuil, puisse réserver son billet à elle et les billets des enfants en même temps. Donc, on est toujours obligé d'appeler pour ajouter les places enfants.
Ouais. Et d'ailleurs, une question par rapport aux toilettes. Enfin, les toilettes qui sont justement dans cet espace-là, elles sont adaptées au final ou pas pour que tu puisses rentrer en fauteuil? Parce que moi, enfin, dans l'image que j'ai des toilettes de la SNCF, c'est que enfin, dans les trains, elles
Alors,
sont quand même pas pratiques déjà quand on est valide. Alors du coup, pour un fauteuil, c'est
elles
même
sont
pas la
plus
peine.
grandes. Elles sont plus grandes, mais comme beaucoup de normes PMR, ils sont faits sur les petits modèles de fauteuils manuels. Donc moi, je peux rentrer, mais la porte, elle ne se ferme pas. Et après, je suis obligée de reculer avec mon fauteuil, de manœuvrer et tout pour retourner à ma place. Mais je
Oh là
pense
là.
qu'un petit fauteuil manuel, alors après, voilà, c'est pas ma situation, donc je ne mettrai pas ma main à couper, mais je pense qu'un petit fauteuil manuel peut faire demi-tour dedans. Mais c'est pas
Ok.
sûr.
Ouais, mais enfin même en tous les cas, ça reste vraiment pas. Enfin, ça reste vraiment pas terrible de faire des normes sur le plus petit, enfin la plus petite chose qui est possible, quoi. Comme tu disais qu'à certaines portes, par exemple, où un fauteuil électrique ne passe pas. En fait, il aurait fallu que la norme elle soit calculée sur enfin oui, sur le fauteuil électrique, parce qu'a priori, si après le fauteuil électrique passe, le fauteuil manuel passerait aussi. Donc
Oui,
ce
mais alors à
serait
petit
tout
jeune,
plus
ça va être
logique, quoi.
le même discours. C'est oui, mais les fauteuils électriques, si pour les personnes obèses, ils vont être encore plus larges. Donc à quel modèle on s'arrête et tout. Donc on prend plus petit.
Ouais, mais bon, enfin, ça revient
Non,
un
mais
peu
c'est le
quasi
même
au même
discours
que
qu'on a
rien faire,
partout.
au final, c'est de l'hypocrisie, hein.
Hein. Voilà. C'est comme, bah oui, mais les ascenseurs, ça coûte cher. Mettre des rampes, ça coûte cher. Attendez, on va pas adapter le restaurant pour une personne en fauteuil. Bah oui, mais le problème, c'est que vu que rien n'est adapté, effectivement, les gens en fauteuil ne viennent pas. Et je sais qu'on avait déjà discuté avec des agents RATP qui sont là pour nous mettre la rampe. Ils disent, le problème, c'est qu'on n'est qu'une minorité à prendre les transports en commun. Donc, on n'adapte pas les transports en commun parce qu'ils se disent, bah, ça rapporte pas d'argent. Mais vu qu'on les prend pas, eh ben, on n'a pas de place en fait dans le. Oui, on n'a pas de place et du coup, ben, on dit bah c'est pas grave, quoi, ils trouveront une autre solution. Mais même dans le RER, on n'a pas de place, on est mis en voiture, dans le wagon à côté du chauffeur, au milieu des gens qui montent et qui descendent. Enfin, ce que je me suis vraiment rendu compte, en tout cas avec l'âge arrivant, parce qu'à 30 ans, j'étais un peu plus tolérante que maintenant, c'est qu'en fait, je n'existe pas et je n'ai aucune place dans la société. Que ça soit les caisses handicapées, qui sont fermées les trois quarts du temps, mais moi je ne passe pas dans une caisse normale. Donc du coup, quand j'arrive et que la caisse handicapée est fermée, ben, on me répond, bah, soit vous attendez qu'elle ouvre, elle ouvre dans 1 heure et demie, soit vous trouvez quelqu'un pour vous aider, soit vous revenez plus tard. Que ça soit dans tout ce qui est parentalité. Les écoles sont pas accessibles, donc je ne peux pas aller aux réunions parents-prof. Je ne peux pas prendre de rendez-vous avec les profs de ma fille parce que bah voilà, y a pas, c'est pas prévu. Et encore, j'ai de la chance dans son collège, l'accueil est accessible. Mais c'est tout ce qui est accessible dans son collège. Parce qu'il y a aussi des mamans qui doivent faire l'inscription de leurs enfants au collège, devant le collège, en fait, parce que le collège n'est pas accessible du tout. Voilà, en fait, c'est tout. C'est même le droit de vote. Il y a 30% des bureaux de vote qui ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil. Donc on nous dit, bah, faites procuration. Je parle même pas des tribunaux, des commissariats, enfin, Voilà, je veux déposer plainte. Bon, j'ai de la chance ici, il est accessible. Mais là où j'habitais avant, le commissariat n'était pas accessible, donc je ne peux pas aller déposer plainte.
On va maintenant faire une petite pause dans l'épisode pour te rappeler comment tu peux soutenir Stérilisez-moi. Tout d'abord, tu peux me suivre sur Instagram et partager les contenus. Mais tu peux aussi, si Stérilisez-moi t'a aidé dans ton parcours de stérilisation, m'offrir un café pour me remercier. En 2003, j'ai reçu un peu plus de 120 € de dons, ce qui m'a permis de financer la maintenance du site et de permettre ainsi à plus de 4400 personnes de consulter la liste de praticiens et praticiennes au cours de l'année. Merci à celles qui ont pris le temps de faire un don pour aider Stérilisez-moi et à celles qui ont pris rendez-vous avec moi afin de réaliser une séance d'accompagnement individualisée. Pour m'offrir un café ou prendre rendez-vous, il suffit de te rendre sur le site internet www.stérilisez-moi.fr. Tu pourras également retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram. Merci pour ton soutien, je te laisse maintenant poursuivre l'épisode.
Enfin, tous les mots plus ou moins jolis qu'on veut leur faire, qu'on veut mettre, mais il y a une grosse partie des handicapés qui n'ont plus leurs droits citoyens, alors que certains pourraient les avoir. Hein. Après, oui, c'est toujours... Il y a des personnes pour qui ça serait compliqué, mais du coup, voilà, je sais qu'en institution, alors que ça soit stérilisation définitive, il y a eu des témoignages de personnes qu'on a stérilisées contre leur gré, enfin, en fait, qui ne le savaient même pas. Hein. C'est lors d'une autre opération, on dit, bon, bah, tant pis, on stérilise en même temps. De toute façon, elle n'aura jamais d'enfant. Ou alors, tout ce qui est implant et tout ce qui est injection qui dure 3 mois, quoi, dont ils ne le savent même pas. Et ça, en fait, dès qu'elles sont jeunes filles, quoi. Parce qu'un handicapé ne va pas faire d'enfant, il ne pourra pas l'élever, ça sera compliqué. Et du coup, c'est de toute façon, même sur le plan de la contraception, c'est les valides autour de nous qui vont décider, quoi. Et après, il y a aussi le problème des maternités qui ne sont vraiment pas au fait de l'handicap. Il y a aussi toute la partie signalement, placement des enfants et tout ça qui est aussi un lourd sujet. Hein. Les statistiques, on les a. Hein, on sait que quand on est handicapé, on a beaucoup plus de chances que notre enfant soit placé. Il y a beaucoup plus d'informations préoccupantes, notamment par les écoles et les crèches, pour être sûr qu'on soit capable d'assumer. Alors que je pense que, voilà, après, c'est comme partout. Hein, il y a des handicapés maltraitants et puis il y a des handicapés bienveillants, mais comme dans la population générale, quoi. Il y a aussi voilà, le fait que du coup, on a du mal à se défendre avec les institutions-là parce que l'ASE, une partie n'est pas accessible. Donc, comment aller défendre ton cas aux éducateurs en disant « je suis capable de m'occuper de mon enfant » quand en fait, tu ne peux pas aller les voir parce que ce n'est pas accessible. Et comme les juges, il y a énormément de tribunaux qui ne sont pas accessibles en fauteuil. Donc, aller défendre ton cas alors qu'en fait, tu ne peux pas y aller. Et je pense que pareil, si jamais les juges ne sont pas, que ce soit à JAF, ou jugent les enfants, s'ils ne sont pas un minimum formés à l'handicap, moi je comprends qu'un juge des affaires familiales lors d'un divorce va mettre les enfants chez la personne qui n'est pas handicapée, parce que si son tribunal n'est pas accessible et que la personne en fauteuil n'a pas pu se présenter à l'audience, ils vont en déduire qu'on ne peut pas s'occuper des enfants, puisqu'on ne peut même pas venir le voir. Et ça, je pense qu'il y a aussi toute cette partie-là de la maternité quand on est handicapé. Et ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Il y a des départements qui ont fait des statistiques en fonction pareil. Hein, si l'enfant est handicapé, il a plus de chances d'être placé, surtout pour tout ce qui est trouble autistique. Et si le parent est handicapé, l'enfant a aussi plus de chances d'être placé. Mais voilà, c'est sûr que moi, des fois, je me mets à la place, je me dis, mais moi, je serai juge, je connais personne dans le fauteuil. Je n'ai que ce que la société me renvoie. Et lors d'un divorce, j'ai placé les enfants chez la personne que je peux voir. Si la personne ne peut pas monter les marches d'escalier, je vais en déduire qu'elle ne peut pas s'occuper des enfants.
Oui, c'est sûr, c'est logique. Et vu que justement, quand on a un point de vue validiste, on ne va même pas se dire qu'en fait, peut-être la personne n'a pas pu monter les marches. On ne va juste même pas y penser. On va juste dire, d'accord, en fait, cette personne n'est pas venue, donc elle ne s'intéresse pas. Donc voilà, ce n'est pas la peine que je lui donne.
Et voilà, je sais qu'il y a des ASE qui ont des locaux qui ne sont pas accessibles, il y a des points rencontres qui ne sont pas accessibles. Donc après, voilà, c'est pour ça que vraiment, c'est la société entière qui n'est pas adaptée. Et du coup, le médical n'est pas adapté non plus. Mais je sais que ça choque beaucoup, hein, mais moi, enfin, j'ai plein de pharmacies dans lesquelles je ne peux pas y aller parce que les pharmacies ne sont pas accessibles. Et le pire, c'est que dans ma rue à côté, j'ai une pharmacie qui a label Andy, hein, où soi-disant ils sont accueillants avec les Andy, il y a une marque de 10 cm, donc je ne peux pas y aller. Et il n'y a pas de rampe. Mais elle reçoit une subvention de la mairie parce que soi-disant elle est accessible. Moi, ça
Ça
m'étonne.
me fatigue. Non, c'est vrai, surtout que, après, comme tu disais justement pour l'histoire, là, des monuments historiques, blablabla, qu'ils n'installent pas une rampe électrisée ou quelque chose de permanent, admettons. Mais qu'est-ce que ça coûte d'avoir une rampe qui puisse se mettre et s'installer, se désinstaller manuellement? Avec, je ne sais pas, une sonnette spécifique, comme ça, une personne comme toi qui a besoin de rentrer, bah, au moins, il y a quelqu'un du magasin qui sort, qui installe la rampe, on fait rentrer la personne, et au moins, le magasin serait, enfin, le magasin ou la pharmacie ou même le lieu médical deviendrait accessible sans avoir besoin de dépenser finalement tant d'argent que ça dans des équipements spécifiques. Puis sans avoir, entre guillemets, besoin de dénaturer. Le paysage, même s'il y a bon, enfin, faut pas déconner, une rampe, c'est quand même la fin du monde.
Oui, puis il y a des solutions, hein. Et puis de toute façon, c'est ce que je dis, l'architecture a toujours évolué, hein. Donc il n'y a pas de raison qu'elle évolue plus non plus, hein. Je veux dire, les châteaux forts, ils n'ont pas la même gueule que quand ils ont été construits, hein. Ça gêne personne, hein. Mais
C'est sûr.
non, mais après, il y a aussi le truc que il y a le problème de voirie où du coup, certaines mairies, du coup, n'autorisent pas à ce que les rampes dépassent sur le trottoir pour pas gêner la circulation des piétons. Et on a beau leur dire, non, mais on la sort et on la rentre. C'est interdit, on ne peut pas mettre de rampe sur les trottoirs. Donc du coup, la seule solution, c'est effectivement de casser pour mettre une rampe à l'intérieur du magasin. Et du coup, il y a beaucoup de restaurateurs qui nous disent, ben, moi, si je mets une rampe, ça m'enlève 6 places, donc c'est absolument pas rentable. Chose que moi, je veux, enfin, vraiment, je ne taperai jamais sur les petits commerçants tant que les grandes chaînes de magasins et l'État ne se sera pas mis en ordre. Le jour où tout sera accessible et qu'il nous restera la petite boulangerie du secteur, on en reparlera. Mais pour l'instant, le problème, il est tellement immense que moi, un restaurateur qui me dit, mais moi, si je pars 6 couverts, je mets la clé sous la porte, oui, je veux bien l'entendre et je ne râle pas. Enfin, pour moi, ce n'est pas ça la problématique. Mais du coup, voilà, les magasins qui pourraient mettre une rampe amovible, bah, les mairies ne veulent pas toujours parce que voilà, ça va sur le trottoir. Et des fois, le trottoir, en fait, il est de toute façon pas assez large pour qu'on puisse tourner et prendre la rampe. Parce qu'une rampe, pour qu'elle soit aux normes, je crois que c'est 6%. Et du coup, ça fait quand même des grandes rampes. Hein. Pour une marge de 15 cm, la rampe, elle est assez longue. Et du coup, des fois, elle dépasse du trottoir ou alors on ne pourrait pas monter dessus, quoi. Mais j'ai quand même des endroits où ils ont mis le petit logo handicapé, où ils ont la rampe et où ils ont la sonnette, mais la sonnette, on ne peut pas l'atteindre.
Génial.
Et je leur dis, quand ils ont la sonnette, je peux pas y aller, je fais comment? Ben oui, mais si on la met plus près, les gens sonnent tout le temps dedans. Donc du coup, on l'a enlevé. Ou alors, voilà, les commerces, ils disent, oui, mais les gens, ils s'amusent à sonner, donc on l'a enlevé.
Bah,
Alors bon, c'est un
déjà,
peu
je pense.
d'incivilité, hein, mais quand même.
Oui, mais ça montre aussi quand même le ridicule des gens valides. Parce que, enfin, si tu vois une sonnette pour les personnes en fauteuil roulant. À quoi ça te sert de sonner en fait si tu n'es pas en fauteuil roulant? Au final, c'est comme les personnes aussi qui vont se garer sur les places handicapées en disant, oh non, c'est pas grave, je reste pas longtemps. Enfin, non, ces places-là, elles sont là pour être utiles pour les personnes qui en ont
Oui,
besoin.
alors
Si
les
toi,
places
tu peux marcher
handicapées
sur tes.
ne seront bientôt plus réservées qu'aux personnes handicapées, puisque normalement, si c'est passé au Sénat et tout, je ne sais plus trop où c'en est, les personnes enceintes pourront se garer dessus.
Ok, c'est quand même pas la même chose. Je veux bien que
Voilà,
parce qu'on est
alors
enceinte, c'est pas
j'étais
pratique, mais c'est quand même
enceinte.
pas la même chose
Voilà,
qu'avoir
j'étais
un
en train de
fauteuil à
faire
sortir.
sur mes jambes en étant très malade. Non, c'est quand même pas pareil. Alors du coup, ils ont passé sur les grossesses pathologiques. Bah, si tu as une grossesse où tu dois rester au lit, bah, tu as un conjoint en général, quand même, il y a un papa dans le secteur. Enfin, en tout cas, voilà, ou alors, je sais pas, il y a des aides. Mais ça a fait scandale. Et du coup, on s'en est encore pris une fois plein la gueule, les gens en fauteuil, par les personnes qui sont enceintes, en disant oui, mais quand même, être enceinte, c'est compliqué et tout. De toute façon, il y a plein de places vides. On peut se garer pendant les 9 mois dessus. Et puis, on vous la rend une fois qu'on a accouché. Sauf que pour avoir accouché 2 fois, bon, la grossesse, c'est chiant, hein, mais alors l'après est encore plus chiant. Quand on a le gamin de 2 mois qui pleure et qui pleut et qu'il faut le rentrer avec le siège auto, le cosy, la poussette et tout, je pense que c'est plus à ce moment-là qu'on a besoin des places un peu plus larges. Donc, du coup, je me dis, voilà, elles vont passer. Et puis après, voilà, ça va devenir des places familles, comme dans plein de magasins maintenant. Maintenant, dans plein de grandes surfaces, les places les plus près des entrées, c'est les places familles, ce n'est plus les places handicapées. Et les centres-villes, la différence, en fait, entre laisser ces places-là aux personnes enceintes par rapport aux handicapés, c'est que nous, les places, elles sont gratuites. On ne paie pas le stationnement. Sauf que les personnes enceintes vont payer le stationnement. Donc, c'est plus intéressant pour les mairies et pour l'État que ça soit des personnes enceintes qui se garent sur les places handicapées plutôt que des handicapés.
Oh là là, c'est magouille pour
Et
ça me ça
mais
me vexe.
si, c'est comme tout. Je sais plus, il y a un pourcentage de places handicapées que doit avoir chaque commune. Mais par contre, il ne t'est pas dit où tu dois les mettre, tes places. Donc, du coup, vu que les centres-villes sont très chers au niveau des parcs-mètres, ils vont avoir tendance à mettre ces fameuses places handicapées au pourtour de la ville, là où en fait personne ne va se garer. Et après, ils vont dire, elles sont toutes en ville, donc on les change.
Je sais même pas quoi dire tellement c'est choquant et puis oui c'est juste ça me sidère aussi en fait de me dire que la France c'est un pays qui se veut alors pas que pour le handicap hein, mais aussi pour le racisme plein de choses comme ça qui se veut très évolué oui nous on est très ouvert blablabla on fait plein d'efforts et en fait bah, quand on regarde dans le détail des choses qui sont réellement c'est tout de l'hypocrisie en fait
Ah, c'est tout
c'est
ça. C'est clairement ça. Et la lutte pour le handicap, donc la lutte contre le validisme, on a 20 ans de retard sur l'homophobie, le racisme et tout ça. Parce que, en fait, on n'en parle que depuis quelques années. Et vu que ça concerne une très petite part de la population qui doit être encore bien inférieure à toutes les autres luttes, bah en fait, ça intéresse personne. Et je vois que quand on veut manifester ou quoi, quand on veut mobiliser des valides, parce que si on n'a pas des valides avec nous, on n'arrivera à rien, et ben en fait, on va mobiliser les quelques valides qui sont touchés de près. Donc soit les auxiliaires de vie, soit les aidants familiaux. Mais en fait, ça a énormément de mal à sortir du cercle handicapé. Et même quand c'était il y a quelque temps, c'était Mediapart qui avait fait soi-disant une grande soirée contre les inégalités, machin et tout, bah l'événement il n'était pas accessible. Donc la personne qui
Okay.
toi, il n'a pas pu y aller. Et on lui a dit non, t'inquiète, la prochaine fois. Et alors ça, qu'est-ce que je peux l'entendre, la phrase? Ah ben on t'invite, ah c'est pas accessible, non mais alors du coup on fera ça une prochaine fois. Moi je suis toujours la prochaine fois. Hein, Et en fait, il n'y a jamais de prochaine fois. Et ça, même dans le milieu handicap, parce que voilà, enfin le milieu handicap, c'est chaque handicap est différent. Et du coup, les non-voyants, par exemple, vont faire un événement, mais ils vont pas forcément penser à l'accessibilité. Et je pense que nous, en fauteuil, on va pas forcément penser à l'accessibilité pour les non-voyants, pour les sourds. Hein. Donc en fait, chaque communauté, et enfin voilà, dans la communauté handicapée, on est encore tous des petites communautés qui avons énormément du mal à se rejoindre ensemble. Même le voilà, enfin je veux dire, les parents d'enfants handicapés, eux, ils sont dans leur truc avec leur lutte pour avoir des auxiliaires, enfin des, je sais plus comment c'est maintenant, AESEH, pour faire respecter la scolarisation à leurs enfants. Donc du coup, tout ce qui est pour l'adulte, et eh ben en fait, ils se sentent pas concernés parce qu'ils ont tellement des combats à mener pour leurs enfants que du coup, bah le reste n'existe pas. Les personnes en fauteuil, bah ils vont pas se battre pour l'audiodescription dans tous les cinémas. En fait, c'est ça, c'est qu'on est une communauté. Mais où en fait on est plein de petites cases encore plus petites dans le truc. Donc voilà, mon fauteuil roulant électrique, on estime qu'on est entre 8 et 10 000 personnes. Donc en fait, ma communauté à moi, c'est entre 8 000 et 10 000 personnes.
Oui, puis
Donc on
du
va
coup,
pas les traiter.
comme tu l'expliquais au début de l'épisode, finalement, déjà sur vu que les besoins des personnes en fauteuil électrique sont différents des personnes en fauteuil manuel, et ben forcément c'est difficile un peu de faire finalement une sorte de convergence des luttes parce que ça voudrait dire qu'il faut ouais, réussir à prendre en compte chaque besoin spécifique de chaque type de handicap pour réussir à venir avoir un discours commun. Et après, même s'il y avait un discours commun, je ne sais même pas politiquement comment il serait perçu, parce que vu qu'il sera reçu par des personnes valides, ils ne vont pas comprendre de voir par exemple des personnes en fauteuil demander des audiodescriptions alors qu'ils n'en ont pas besoin, ou inversement des personnes aveugles demander des rampes pour les personnes en fauteuil
Ah bah ça, c'est
électrique.
le problème. Et après, il y a des handicaps qui sont pas compatible. Il y a des fois où moi, je vais demander quelque chose, mais qui, du coup, va exclure une autre partie des handicapés. Et ça, je pense qu'on n'arrivera jamais à une... à quelque chose 100% inclusif, ça c'est impossible parce que il y a des troupes qui ne sont pas compatibles entre eux et du coup forcément ça pose souci dans certains aménagements parce que même s'il y a des personnes qui veulent faire 100% accessible, en fait ce n'est pas possible. Et ça voilà, il faut aussi accepter qu'on ne puisse pas avoir du 100% accessible. Par contre, bah oui, malheureusement, il faut faire pour le plus grand nombre et pour les handicaps les plus représentatifs, quoi. On ne pourra jamais faire du 100%.
Ouais, mais après, c'est justement que si le handicap, de façon générale, c'était mieux pris en compte dans la société, on pourrait accepter de dire, OK, on ne peut pas faire tous les lieux 100% accessibles, mais on peut faire en sorte qu'il y ait tel pourcentage de lieux qui soient accessibles à ces types de handicaps qui sont compatibles. Et puis du coup, tel autre pourcentage qui sera accessible aux autres personnes pour faire en sorte que, par exemple, au sein d'une même ville, eh ben, pour chaque personne, il y ait au moins un lieu qui soit accessible à chaque fois pour tout, quoi. De dire, je ne sais pas si si on ne peut pas faire en sorte qu'un même restaurant il soit accessible pour des personnes, par exemple, en fauteuil manuel et des personnes en fauteuil électrique. Et du coup, si au moins on fait en sorte qu'il y ait la moitié des restaurants qui soient accessibles pour les fauteuils électriques et l'autre moitié pour les fauteuils manuels, c'est quand même déjà ouvrir beaucoup plus de possibilités aux personnes en fauteuil en général d'avoir tous ces lieux plutôt que de ne pas avoir de lieu du tout, quoi.
Oui, et ça, je pense qu'il y a aussi, enfin, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est que moi, je ne veux pas que tout soit accessible. Mais ça, c'est une acceptation qu'il faut aussi. Enfin, il y a les militants que je rencontre, voilà, eux, ils veulent du 100% accessible, mais ça, on n'y arrivera jamais parce que il y a trop d'handicap, il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà, tout ce qui est État, que ça soit tout ce qui est scolarité, tribunal, administration, transport en commun, tout ça, ça soit déjà 100% accessible partout et que ça soit pour le public sourd, pour le public non-voyant ou malvoyant, pour le public en fauteuil manuel ou électrique et pour le plus grand nombre. Et si déjà on avait ça, ça serait déjà pas mal, mais on en est très très loin. Après, je sais que par exemple, beaucoup se battent pour le métro, mais c'est illusoire de se battre pour le métro. Le métro parisien, on ne pourra pas le rendre accessible. C'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est que tous les transports autres que le métro soient vraiment performants avec des rampes qui marchent et avec un vrai réseau et pas du bricolage comme on a fait à mettre un bus sur deux qui est accessible, un arrêt sur deux accessible, qu'on compense avec le PAM qui, oui, le PAM, c'est bien qu'il existe, mais c'est encore un truc qu'on doit réserver 48 heures à l'avance, où on ne sait jamais trop si on va avoir notre taxi ou pas, qu'il faut habiter dans la région pour pouvoir en profiter et qui est réservé aux personnes à plus de 80% alors qu'on peut être en fauteuil et avoir un handicap plus léger aux yeux de la MDPH. Mais je pense que des trucs comme le métro, on ne pourra jamais rendre 100% du métro accessible. Il y a des endroits où c'est possible, mais il y a des endroits où ça ne sera pas. Par contre, il faut que le reste de l'infrastructure de transport en commun fonctionne. Et ça, ce n'est pas le cas. Donc en fait, moi, en fauteuil électrique, je peux traverser Paris sans aucun problème, parce que mon fauteuil le permet. Mais j'imagine les personnes en fauteuil manuel, c'est impossible de traverser Paris si jamais il n'y a pas une infrastructure de transport en commun pour le faire, quoi.
Enfin oui, on en revient encore au problème justement que tant qu'il n'y aura pas aussi des personnes concernées finalement dans les décideurs, ce sera toujours compliqué. Ou au moins oui, d'avoir plus de personnes valides qui s'intéressent au sujet pour pouvoir aider la cause justement, aider les personnes handicapées à pouvoir faire entendre leur voix.
Mais ça, oui, on a bien un député en fauteuil, hein, mais pour l'instant, le bilan est mitigé, hein, parce que, bon, déjà, il n'a pas ouvert son hémicycle, hein, parce que l'hémicycle n'est pas vraiment accessible. Donc, ils ont bricolé un truc, je crois, pour qu'ils puissent venir siéger quand même. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que dans plusieurs interviews, ils ne donnent pas les bons chiffres au niveau remboursement sécu, au niveau des aides qu'on a. Enfin, il y a des fois où je me dis, le problème, c'est que le peu de personnes en situation de handicap qui sont à des postes, en fait, ne vivent plus le handicap au quotidien. Et du coup, je me suis déconnectée.
C'est ça, parce que finalement, un député qui gagne un salaire assez élevé tous les mois et qui a un taxi qui est payé par le gouvernement, j'imagine que du coup, il ne galère pas dans les transports en commun puisqu'il n'a jamais besoin de les prendre. Il ne galère pas dans les magasins parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui fait les courses toutes les semaines. Donc effectivement, au final, c'est des personnes qui aussi sont déconnectées de la réalité, puisque,
Et ça
enfin,
reste des
tout comme...
politiques, hein. Donc lui, dès qu'il y a
Exactement.
une grande annonce, il dit, ah ben le gouvernement va faire plein de choses. Alors à chaque fois, voilà, il y a la petite phrase, on attend de voir. Mais bon, en attendant, j'ai pas l'impression. Enfin voilà, en plus, une seule personne ne peut pas faire changer le truc. Il faudrait, voilà, comme que ça soit. Mais c'est un peu comme la parité homme-femme ou la diversité culturelle. Il faudrait vraiment que les gens qui nous gouvernent et qui sont dans des grandes institutions et dans les grandes entreprises, etc., soient représentatifs de la vie, de la vraie vie. Mais alors ça, je pense que c'est très illusoire et que je suis pas sûre que ça arrivera un jour. Et après, beaucoup me disent que c'est mieux dans d'autres pays, mais après, j'aimerais bien vivre dans ces pays pour voir vraiment l'étendue, parce qu'avoir, je sais qu'il y a des pays qui sont plus accessibles. Mais l'accessibilité, c'est pas juste des rampes et juste rentrer dans un magasin, c'est comment la société prend en charge ces personnes, l'accès aux soins, l'accès au matériel médical, la scolarité, l'inclusion dans, voilà, dans la vie active. Et ça ne se voit pas en voyageant et il faudrait vraiment vivre un moment dans le pays pour voir vraiment en fait. Parce qu'il y a quand même cette illusion à chaque fois, oui, c'est mieux ailleurs, mais moi j'aimerais bien voir voilà, toute la phase. Parce que oui, je sais qu'il y a des pays où les fauteuils sont beaucoup mieux remboursés, voire gratuits, mais s'il faut 10 ans pour en avoir un, le problème, il est le même en fait. Et toutes ces nuances-là, on ne les voit pas quand on n'est pas handicapé et qu'on ne vit pas dans le pays.
Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire en plus, parce qu'en tant que personne valide, tu peux avoir une illusion d'accessibilité, mais vu que tu vas pas tester toi-même enfin, les modalités d'accessibilité pour être sûr qu'elles sont, et puis tu vas pas forcément te rendre compte, parce que enfin voilà, quand tu peux dire voilà, il y a une rampe, il y a un ascenseur, mais si par exemple la rampe elle n'est pas configurée correctement et qu'elle dépasse un petit peu, bah, toi, en tant que valide, tu ne vas pas t'en rendre compte, alors que potentiellement, une personne en fauteuil, elle va bloquer, elle ne pourra pas passer.
Puis
Donc...
après, il y a vraiment l'inclusion dans la société, hein. Je sais que le Japon, apparemment, c'est assez accessible, mais vu comment sont considérés les handicapés par leur famille et la société, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose au final, quoi. Enfin, les gens sont quand même cachés, c'est une honte d'être handicapé quand on est japonais. Enfin, c'est vraiment une société de l'apparence et c'est très, très, très compliqué à vivre. Alors oui, il y a des ascenseurs partout, oui, il y a des rampes partout. Mais je suis pas sûre que ça soit plus enviable d'habiter là-bas qu'ici, quoi, en fait. Et après, il y a vraiment
Oui, c'est sûr.
des particularités de pays où on a, par exemple, je sais que dans l'autisme, beaucoup ont l'illusion qu'en Belgique, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de centres pour les autistes et c'est mieux pris en charge. Mais en fait, c'est vraiment, enfin, moi qui habite à côté de la Belgique et qui me suis un peu renseignée parce que j'ai eu des gens proches. Qui était dans le milieu de l'autisme. Bah en fait, pourquoi il y a beaucoup de centres qui sont créés et pourquoi il y a beaucoup de choses en Belgique pour l'autisme, mais en fait, ce n'est pas pour les Belges. C'est parce que vu qu'en France, on n'a pas de place, les MDPH et le gouvernement français a autorisé les Français à aller se faire soigner ou institutionnaliser en Belgique, payés par l'État français. Donc en fait, bah, c'est pas qu'ils sont avancés là-dessus et qu'ils ont fait un effort d'inclusion, c'est juste qu'ils ont vu le pognon et que du coup, ils ont fait des trucs. Mais après, si vous êtes autiste et en Belgique, vous n'avez pas accès à ces centres-là. Et en plus, bon, dans beaucoup d'institutions, il y a de la maltraitance et il y a des choses comme ça. Donc, pareil, hein, j'aimerais bien être une petite souris pour voir entre la pub qui en est faite et ce que vivent vraiment les gens qui y sont. Mais du coup, pour beaucoup de Français et même d'Allemands et tout, ils se sont dit, ouais, la Belgique est hyper en avance sur la prise en charge de l'autisme, alors qu'en fait, ils ont juste trouvé un créneau pour faire de l'argent parce que les Français et les Allemands n'ayant pas de place dans les pays ont payé en fait la Belgique pour créer des centres.
Ouais, donc c'est complètement illusoire. Non, mais c'est vrai. Puis j'imagine que chaque chose change. Par exemple, moi, j'essaie d'y penser un peu en Colombie. Alors, bien sûr, je parle de mon point de vue valide, puisque j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter. Mais par exemple, en Colombie, quand on va, par exemple, aux urgences, il y a quand même beaucoup de choses qui sont adaptées pour le fauteuil manuel, parce que par exemple, même si on voit qu'on a des douleurs, etc., ils n'hésitent pas aussi finalement à faire s'installer des gens dans un fauteuil pour pouvoir bah, voilà, les diriger plus facilement, qui sont un peu plus confortables. Mais à côté, voilà, j'ai aucune idée de si les machines d'examen, par exemple, elles sont adaptées ou pas. Et puis à côté aussi, en ville, il n'y a rien qui est adapté. Enfin, les trottoirs, moi, je me prends déjà tout le temps les pieds dans les trottoirs parce que... Il y a tout le temps des différences de niveau, il y a des rampes pour les voitures en plein milieu, etc. Donc, enfin, je vois quelques personnes là où j'habite qui sont en fauteuil électrique. et elles sont constamment sur la route au milieu des voitures et le trafic en Colombie est atroce. Donc à chaque fois, je me dis, mais c'est horrible parce que enfin, les gens en voiture en Colombie, le trafic est très dangereux aussi. Et du coup, je me dis, c'est horrible pour ces personnes parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles sortent, elles doivent en plus risquer leur vie pour aller sur la route au milieu des voitures en se prenant toute la pollution dans la figure. Bah, pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre, quoi, parce qu'il n'y a rien d'adapté. Et après, voilà, je ne sais pas
Ah
au
bah,
niveau
déjà
de.
en France, hein. En France déjà, enfin moi dans ma ville, il y a plein de fois où je suis obligée de rouler sur la route et c'est hyper dangereux, mais parce que le trottoir il n'est pas du tout adapté. Et encore, je pense que moi je m'en sors pas trop mal parce que voilà, maintenant je connais mes itinéraires et voilà, je m'en sors. Mais il y a des villes où oui, tu es obligé de rouler sur la route et puis les voitures elles te frôlent, elles roulent super vite, enfin et les gens ils en ont rien à faire hein, que tu sois en fauteuil sur la route. Donc j'imagine, voilà, je pense que c'est toujours pareil. Il doit y avoir des pays. Je sais qu'il y a vraiment des pays où je sais qu'en Pologne, ils ont des trucs très très avancés au niveau médical sur certaines pathologies médicales. Donc les Français vont en Pologne. Mais pareil, est-ce que les Polonais ont accès à ces nouvelles technologies? Ben, en fait, on ne sait pas. Donc c'est bien beau de dire, voilà, je pense que chaque pays a sa vision du truc et après, tout reste quand même financier. Le marché de la santé, c'est énorme au niveau, enfin, ça rapporte un pognon monstrueux. Et du coup, je pense que chaque pays a quand même réussi à trouver des créneaux pour apporter de l'argent. Mais est-ce que quand on est dans ce pays, est-ce qu'on a accès à ces technologies? J'en sais rien. Et après, il faut tomber dans la bonne case. Mais même en France, on a des cancers qui ne sont pas remboursés. On va en Suisse, ils sont remboursés. Mais en Suisse, il y a des cancers qui ne sont pas remboursés, qui seraient remboursés si vous êtes en France. Donc je pense que voilà, je pense que le problème après dans les pays pauvres, je sais, enfin je n'ose même pas imaginer, mais je pense que voilà, dans chaque pays, dans la plupart des pays en tout cas, il doit avoir des compétences sur certains trucs et il doit avoir certains trucs qui sont bien pris en compte au niveau maladie. J'avais entendu, je crois que la Thaïlande au niveau endométriose, c'est pas mal. Ils diagnostiquent beaucoup mieux qu'en France, mais après, à voir si, on va dire, la personne voilà, qui est pauvre en Thaïlande, est-ce qu'elle a accès aux soins? Ça, j'en sais rien.
Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a toujours une différence entre voilà, le parcours médical qui est possible, enfin qui existe en tout cas, qui est proposé, et après bah, le tarif, l'accessibilité
Ben, c'est ça, hein.
pour chaque personne.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop quand on dit oui, c'est mieux ailleurs, oui, non, mais ailleurs, pourquoi, comment, quelle partie de la population, quelle case, parce que je pense que voilà, maintenant, on est quand même dans un truc mondialisé, et en tout cas, voilà, dans la plupart des pays, il faut rentrer dans la bonne case. Et en France, il y a des cases qui sont très, très bien, enfin, très bien pris en charge et tout, et puis il y a des cases où même certains cancers, vous n'avez pas accès aux soins du tout si vous ne payez pas de votre poche. Mais ça, je pense que voilà, une grande partie des gens qui ne sont pas malades et qui ne sont pas confrontés ne le savent même pas. Quand on parle de cancer, oui, il y a des cancers qui sont très très bien pris en charge, et puis il y a des cancers qui sont très très mal pris en charge. Et je pense que c'est valable pour voilà, pour à peu près toutes les maladies, oui, à peu près toutes les maladies, parce que sûrement que l'État, enfin voilà, même les laboratoires ont mis plus d'argent dans certaines choses. Et on voit bien qu'il y a des médicaments qui sont vitaux et qui sont même plus produits, quoi. Et des médicaments, je sais qu'on a eu des pénuries d'adrénaline, donc pour les gens qui font des chocs anaphylactiques, pendant plusieurs mois, on n'a pas eu d'adrénaline en France. Pareil pour les diabétiques, on n'avait plus d'insuline. Voilà, il n'y a plus d'insuline. Mais si vous n'êtes pas diabétique, et en plus, je pense que même tous les diabétiques ne l'ont peut-être pas su, parce que si. Vous aviez renouvelé votre traitement juste avant et que du coup, vous aviez assez pour passer la période de pénurie, et ben en fait, vous ne saviez même pas qu'il y a une pénurie. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Voilà qu'en France, on a des traitements, et là, pareil, des antiépileptiques. Enfin, en ce moment, on manque énormément de médicaments. Mais si vous n'êtes pas concerné, ben en fait, on ne sait même pas quoi.
Oui, c'est ça. Il y a assez, enfin, il y a, je dirais peut-être 2, 3 mois, j'avais écouté un reportage de Mediapart qui expliquait que justement toute cette pénurie de médicaments en France, et qui expliquait aussi que par exemple un médicament bah, assez courant et surtout très utile en général, qui est l'amoxicilline, qui est
Un
un
antibiotique.
antibactérien, voilà, qui est en rupture de stock aussi en France. Simplement parce qu'en fait, vu que c'est un produit qui existe depuis très 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 longtemps, que les brevets sont passés, etc., c'est un produit qui coûte pas cher en fait, et clairement, les laboratoires préfèrent produire d'autres choses qui sont très rares pour des maladies très rares, les produire en grande quantité parce que la France les achète, enfin la sécurité
Oui.
sociale les paye et ça coûte très cher, que de produire de l'amoxicilline qui est un produit très 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 nécessaire au quotidien en France pour plein de, enfin dans le traitement de plein de maladies, mais parce que du coup ça leur rapporte pas assez, donc en fait, voilà, moi je trouve
Il y a le
vraiment que
problème là, du coût que ça rapporte. Il y a le problème que les matières premières sont fabriquées en Inde et l'Inde, du coup, fait un peu de blocus, hein. Mais en même temps, je dis, ils auraient tort de s'en priver. Hein. Je veux dire, eux, ils gardent pour eux, en fait. Et du coup, ils en envoient beaucoup moins. Et il y a des grosses. Enfin, maintenant, les laboratoires, ce n'est pas eux qui fabriquent les matières premières. Et c'est vraiment l'Inde. Il y a toute une partie de l'Inde qui fabrique les matières premières. Et du coup, eux, le gardent pour eux. Et après, voilà, il y a les chaînes, toute la chaîne. Qui est mondialisé. Et du coup, ils vont envoyer certains médicaments dans certains pays parce qu'ils leur rapportent plus d'argent. Et en même temps, eh ben, les pays sont un peu obligés de céder sur certains prix. Le truc de l'adrénaline, où il n'y a plus d'adrénaline en France pendant un moment, mais il n'y en avait plus en Espagne non plus. Et je pense dans d'autres pays européens, c'est parce que le laboratoire avait augmenté de 4 euros par dose. Et du coup, bah, les pays ils ont dit non, nous, enfin, on ne veut pas d'une telle augmentation, on ne montera pas les prix. Donc, toutes les ARS avaient bloqué le consensus, sauf qu'en fait, les pays ont été obligés de céder et dire bon, bah, tant pis, on les achète à 32 euros parce que bah, le laboratoire a dit c'est tout, je vous fournis plus. Alors que l'adrénaline a été fabriquée en Espagne. Donc là, ce n'est même pas un problème d'approvisionnement et tout, et ce n'est même pas un problème de coût parce que le médicament est ultra rentable, mais vu qu'il sauve la vie des gens. Eh ben, ils se sont dit, nous, on va mettre un coup de pression pour le faire payer plus cher. Et les gouvernements, enfin les ARS, tout ça, ils ont attendu au bout de X morts, ils se sont dit, bon, bah, tant pis, quoi, on va céder. Et on a le même problème sur les fauteuils, enfin, les fauteuils, le matériel médical, on a le même problème, c'est que en fait, les fabricants imposent un prix. Ah ben, on prend pas. Du coup, nous, en France, on n'a pas les catalogues. En tout cas, en fauteuil électrique, on n'a pas les catalogues complets des marques parce que ben, les marques, ça ne les intéresse pas de commercialiser en France puisque la France a des exigences au niveau homologation et tout. Donc, bon, tant pis. Et puis, quand je le vois, certains fauteuils, notamment en Russie, en Roumanie et dans d'autres pays comme ça, les fauteuils qu'ils arrivent à sortir, je me dis pourquoi nous, en France, on a des fauteuils pourris? Il y a un moment donné, ils arrivent à faire des fauteuils qui montent les marches et qui roulent sur la neige. Nous, en France, on nous dit, vous ne pouvez pas sortir quand il pleut. Après, je ne sais pas si les Russes peuvent se les payer, ces fauteuils-là. Hein, parce que c'est toujours pareil, voilà, c'est bien beau de les sortir, mais si la population ne peut pas les acheter, bof, quoi. Mais oui, nous, en France, on a des mêmes pour les grandes marques. Parce que grosso modo, hein, le marché du fauteuil électrique, il y a 5-6 marques qui se partagent plus ou moins le marché mondial, quoi. Après, dans chaque pays, on a une ou deux marques. Enfin, mais globalement, voilà, c'est vraiment des grosses multinationales. Eh ben, elles ne s'embêtent pas à commercialiser certains fauteuils en France. Et là, avec la nouvelle loi du 100% santé, ça va être, enfin, si ça passe, et si ça passe comme c'est présenté, enfin, ça va être une catastrophe. Clairement, j'aurai plus de fauteuils électriques. Enfin, on aura tous des fauteuils qui ne sont pas adaptés.
Wow. Non mais enfin, je pense qu'on en revient de toute façon à un problème principal, c'est que en fait la santé c'est un business et ça devrait pas. C'est
Et c'est un
clairement
business qui
ça.
rapporte beaucoup d'argent à beaucoup, 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 beaucoup de monde. C'est que la chaîne, elle est énorme. C'est que, enfin, et qu'il y a des aberrations. Enfin, moi, voilà, si le constructeur de mon fauteuil me vend un fauteuil défectueux, en sachant qu'il est défectueux, je ne peux pas me retourner contre lui. Pour moi, il n'existe pas. Je n'ai aucun. Je ne peux pas rentrer en contact avec lui. Je vais devoir déposer plainte contre mon prestataire, qui est en fait bah, mon vendeur et mon garagiste, hein, voilà, mon concessionnaire. Et lui, donc c'est lui qui va payer les pots cassés. Et après, ils vont voir en fait si jamais ils se retournent contre la multinationale qui ont vendu des fauteuils défectueux. Et on a eu des fauteuils défectueux où c'est une notoriété publique. Hein, même les commerciaux de la marque ont démissionné, tout ça, ça fait scandale. Ils ont été vendus pendant 3-4 ans. Tout le monde sait qu'ils sont défectueux, mais en fait, on ne peut rien faire. En France, on ne peut rien faire. Et il y a même des marques qui vendent alors qu'ils n'ont pas de siège social en France, qui n'ont pas de SAV en France, notamment ma marque. Hein. Voilà, mon fauteuil, il a dû être réparé. Il est reparti dans un pays étranger pour être réparé. Parce qu'il y a, en France, il n'y a pas. Je ne suis pas sûre que ça serait très légal pour, bah, je ne sais pas, moi, si Renault n'avait pas de SAV en France, quoi. Ou même si Renault vendait une voiture en sachant qu'elle est défectueuse et que du coup, ça revient en fait à déposer plainte contre son garagiste. Alors que le garagiste, il est pour rien, lui. Et vu que pareil, hein, c'est quand même un petit milieu, les prestataires médicaux qui vendent des fauteuils électriques, on n'a pas non plus à tous les coins de rue. Eh ben, on a des histoires de personnes qui ont déposé des plaintes et qui ont fait des recours parce qu'ils sont restés 2 ans enfermés chez eux sans fauteuil parce que le fauteuil était en panne. Et puis après, bah, la Sécu est obligée d'obliger en fait un prestataire à les prendre en charge parce que plus personne veut s'occuper d'eux parce qu'ils vont oser. Bah parce qu'écoute, hein, t'es qu'un handicapé, c'est pas très grave, on te donne enfin voilà, tu te débrouilles avec ce que t'as, quoi. Et on parle de fauteuils à 20 000, 25 000, 30 000 euros, même certains jusqu'à 45 000 euros, quoi, qui vont durer, qui ont déjà une espérance de vie entre 3 ans et 7 ans pour les meilleurs, hein, quand on roule pas beaucoup. Mais moi, clairement, avec l'utilisation que j'en ai, que je ne trouve pas non plus énorme, hein, parce que ça fait 100 km par mois, ça fait 3 km par jour, hein. Donc j'ai pas l'impression d'avoir une surutilisation. Je suis juste maman avec 2 enfants et j'ai un chien, quoi. Donc 3 km par jour, c'est pas énorme. Et eh ben moi, si je l'ai fait tenir 3 ans, je suis déjà contente, quoi. Et par contre, je l'ai payé 20 000 balles. Et la Sécu me rembourse 3 900 et quelques euros, quoi. Le reste, c'est ma mutuelle, la PCH, le machin, des dizaines de dossiers qu'on n'arrive pas à voir parce que, en général, quand on change le fauteuil, c'est que l'ancien, il est mort. Hein, donc, j'ai pas 1 an et demi à monter des dossiers pour avoir des financements, quoi.
Ouais, j'imagine bien. Mais c'est fou parce que je me dis quand même, on arrive à faire des trottinettes électriques ou des roues électriques qui sont légères et qui fonctionnent super bien, et on ne peut pas faire des fauteuils électriques qui sont un peu plus légers, qui aient une plus grande autonomie. Enfin,
alors, il y en a maintenant, il y en a des fauteuils électriques plus légers avec d'autonomie et tout, mais c'est pour des gens qui n'ont pas besoin de positionnement, qui n'ont pas besoin d'amorti, j'ai pas envie de dire handicap léger parce que c'est débile comme terme, mais pour des gens en fait qui n'arrivent juste pas à pousser un fauteuil manuel, quoi. Donc on en fait, ils sont pas chers, ils sont même pliables, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle voiture, tout ça, mais moi je peux pas rester dedans, quoi. Moi je reste dedans une demi-heure et puis au bout d'une demi-heure je suis cassée partout et pendant une semaine je peux pas bouger de mon lit, quoi. En fait, c'est vraiment la différence entre ce qu'ils appellent le handicap léger, où en fait on a besoin d'une aide à la mobilité, et le handicap où on a besoin de positionnement, de bascule d'assise, voire de verticalisateur, et là on tombe vraiment dans un autre truc, quoi. Et même au niveau des prescriptions, hein, pour le fauteuil manuel, votre généraliste peut faire la prescription. Moi, pour mon fauteuil, que ça soit des adaptations, les options ou les renouvellements, il faut que je passe par un médecin de réadaptation physique. Avec un ergothérapeute, et c'est eux qui font la liste en fait du matériel qu'ils veulent sur mon fauteuil, et après la Sécu dit oui ou non. Moi, c'est toujours de toute façon le médecin conseil de la Sécu qui a le dernier mot de savoir si oui ou non j'ai mon fauteuil. Donc je ne suis absolument pas autonome.
Bah non, du coup.
Mais non.
Puisque
wow. Je ne peux pas dire je veux tel fauteuil. On va me dire oui, mais non, mon préféré que vous ayez celui-là. Ah oui, mais celui-là avec 10 km d'autonomie. Non, mais c'est pas grave, on s'en fiche.
Mais en plus, c'est fou parce que, comme tu dis, que de toute manière, la Sécu, ils ont un plafond de remboursement. Même si au final, le fauteuil dont tu as réellement besoin, il coûte plus cher et qu'ils ne te rembourseront pas plus, de toute manière, je ne vois pas ce que ça peut leur faire à la Sécu que tu aies celui-là ou un autre.
Parce que pour eux, tous les fauteuils sont équivalents, donc nos options sont cosmétiques. C'est du confort. Enfin, c'est vraiment en fait le problème de la Sécu, c'est la notion de confort. Quelqu'un qui a besoin d'une commande occipitale, par exemple, c'est pas du confort. C'est que si jamais vous lui mettez un joystick à la main, il pourra pas le conduire. Pareil, des gens qui ont des trucs très très spécifiques sur les fauteuils électriques, ils ne peuvent pas s'en passer parce que sinon ils ne peuvent pas. Mais pour la Sécu, c'est une option. Et ça va même sur le fait que sur les factures, nos options n'apparaissent pas. Donc, c'est des trucs, c'est aberrant. Si on vous livre le fauteuil avec une option que vous avez payée et qu'en fait, elle n'est pas sur le fauteuil, ça va être très compliqué parce qu'elle va être sur le devis, mais pas sur la facture. Et moi, par exemple, j'ai besoin du lift, donc c'est quelque chose qui lève le fauteuil pour aller prendre des choses en hauteur. Ça coûte environ 3 000 euros à peu près, quelle que soit la marque. Et donc, du coup, ça soulève le fauteuil d'environ 25 cm, ce qui permet de faire ses courses avec un peu plus d'autonomie ou de pouvoir prendre dans les placards en hauteur dans le logement. Eh bien, si on me le livre sans, ça n'est pas sur ma facture, parce que c'est une option de confort. De même que ma bascule d'assise, de même que mon dossier, de même que si je choisis des batteries plus grosses. Et je pense que le problème vient de là aussi, c'est que du coup, quand on a un souci, il faut aller prendre le devis et se baser sur le devis en disant que notre fauteuil n'est pas conforme. En tout cas, sur les factures, ça n'apparaît pas, parce que c'est du confort.
Mais c'est faux parce que en plus, enfin, j'ai envie de dire, du confort pour quelqu'un qui est toute la journée dans son fauteuil, ben en fait c'est juste la base. Enfin, je vois même pas pourquoi ce serait considéré comme un truc optionnel sachant que voilà, tu t'en sers tout le temps, toute la journée. Et
Moi, c'est du
enfin.
confort. Pour eux, le modèle à 3 900 euros, donc le fauteuil de base, il sert à tout le monde. Mais c'est pareil, on a en option, on a même les, par exemple, pour pouvoir conduire sur la route, et ben forcément, il nous faut les feux. Mais les feux sont toujours en option. Et moi, je crois que sur ma marque, c'est 700 euros les feux.
C'est enfin et là pour le coup c'est pas du confort, c'est de la sécurité. Enfin,
Bah, sinon,
c'est quand même pas
écoute.
comme si tu
Oui,
demandais
bah
à
oui.
un
Je veux dire, bah dans
distributeur
ces
à
cas-là, tu vas
Margarita,
que
tu
sur
vois,
des
genre.
trottoirs. Tu vas que sur des trottoirs accessibles et tu ne roules pas la nuit. Point. De toute façon, c'est pas grave, t'es pas obligé de rouler la nuit.
Bah oui, mais par exemple, justement, la nuit tombe vite en hiver en France. Ça veut dire que tu peux sortir encore moins sinon quand c'est en hiver. Non, mais.
Mais je pense que c'est voilà, de toute façon, on revient toujours au même truc, c'est qu'on n'est pas inclus, c'est même pas, enfin voilà, le fait qu'on puisse travailler, ça n'a même pas été réfléchi. Moi, voilà, je connais des gens qui sont en fauteuil électrique, qui travaillent, mais qui vont devoir annuler leur travail à plein le matin en disant, bah, désolé, je ne peux pas venir parce qu'il pleut, parce que mon taxi n'est pas venu, parce que la rampe du train n'a pas voulu se mettre, ou plein de trucs. Donc. Moi, je me mets même à la place voilà, des employeurs, mais même si jamais j'ai envie d'employer des personnes en situation de handicap et surtout en fauteuil, ben en fait, t'as énormément d'aléas qui fait qu'en fait, la personne ne peut pas venir au travail. Et enfin, quand on lit sur Twitter, j'ai plein, voilà, je suis abonnée à plein de comptes de personnes en fauteuil. Là, il y a un prof de l'université, il arrive, l'université lui dit, ah ben non, mais la salle, elle n'est pas accessible, bah, vous demanderez à quelqu'un de vous noter le cours, il dit, bah ouais, le problème, c'est que c'est moi le prof, quoi.
Ballot.
Voilà, donc vous me trouvez une salle accessible. Alors, je ne sais pas comment l'histoire s'est finie, mais oui, en fait, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Et il y en a un qui arrive à avoir, voilà, qui arrive à travailler, notamment dans l'éducation nationale, il y en a plusieurs qui sont profs et en fauteuil, mais ça leur arrive qu'on leur donne une salle qui n'est pas accessible. Et puis on leur dit, bah démerdez-vous, c'est pas très grave. Vous n'avez qu'à faire cours bah, ailleurs. Voilà. Ou les ascenseurs de l'éducation nationale, ils marchent quand même rarement. Et on a une aussi qui expliquait qu'elle devait en fait aller à l'accueil pour chercher le badge pour pouvoir monter dans l'ascenseur. Et du coup, pour sortir de sa classe et redescendre, elle devait envoyer un élève aller chercher le badge à l'accueil pour qu'elle puisse redescendre. Parce que bon, on va quand même pas lui donner un badge. Enfin, faut pas déconner, quand même.
Bah
Enfin,
oui, ça coûte trop cher.
imagine-toi
Attends,
avec
ils vont
l'ascenseur
pas
pour
con.
s'amuser avec l'ascenseur, hein?
Non, bah oui, non, mais. Oh là là.
Ouais, et comme je dis, il y a des hôpitaux où c'est pas prévu. Enfin, et des hôpitaux qui sont pas si vieux que ça, hein. Même dans des cliniques privées, pareil, qui sont pas si vieux que ça, je peux pas aller dans certains services parce que les portes sont pas assez larges, quoi. Moi, une porte, enfin, suivant comment, voilà, mon fauteuil fait 65 de large, donc je peux passer dans 70, mais il faut que je puisse manœuvrer comme il faut, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'endroits où je ne peux pas, ouais, où je peux pas y aller. Et du coup, c'est à chaque fois, voilà, expliquer au secrétaire. Il y a celle qui, alors, qui dit oui, il n'y a pas de souci. Puis en fait, t'arrives, c'est pas possible. Et puis du coup, il y en a plein, voilà, qui s'embêtent même pas, qui te disent non, non, on prend pas ce type de public ou désolé, c'est pas possible. Mais moi, quand même, ce qui m'a fait le plus mal, c'est les rendez-vous que j'ai pris et où 3 jours plus tard, on m'appelle pour me dire que c'est pas possible. Parce qu'au téléphone, la secrétaire dit oui, il n'y a pas de souci, c'est tout accessible. Et puis au final, en fait, bah, le tout ne veut pas d'une personne en fauteuil, quoi. Il ne veut pas s'emmerder avec ça. Et là, tu te dis, ouais, bon, on a encore du boulot. Hein.
Eh ben ouais. Eh ben du coup, je pense qu'on va terminer le podcast ici, parce que je pense qu'il était déjà
Déjà
très
long.
dense en information.
Oui. Oh ben, c'est voilà, c'est le genre de sujet où t'en as pour des heures, quoi, parce qu'en fait, il y a tellement à dire. Et puis tout
J'imagine.
se rejoint, parce que si tu parles que de l'accessibilité médicale, ben, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que si tu n'expliques pas tout ce qu'il y a autour pour arriver à ce que médicalement on n'ait pas accès, ben, en fait, c'est un peu creux, quoi.
Non, non, c'est sûr. Non, puis en tous les cas, je voulais quand même prendre le temps d'échanger assez bah, profondément avec toi, parce que voilà, je pense que le handicap, c'est pas forcément un sujet dont on parle beaucoup en général hein, dans la société.
Non, pas du tout.
Et justement, quand tu m'as contacté par email, bah voilà, pour m'expliquer que un des médecins sur la liste, justement, je crois que c'est celui-là, t'avais appelé
Oui.
après coup pour te dire que finalement, ça allait pas être possible. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant d'échanger avec toi.
Et
Oui,
voilà, enfin, moi personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses.
ouais, que dans les listes, enfin voilà, comme là pour la stérilisation, mais comme d'autres listes, hein, on inclut le handicap parce que je vois beaucoup, hein, par exemple, l'homophobie, les machins, la grossophobie, tout ça, mais en fait, il n'y a jamais la partie handicap. Et moi, je sais que sur la liste des gynécologues ouverts à la stérilisation, j'en ai appelé plusieurs, et en fait, à chaque fois, on me dit que ce n'est pas possible. Et la dernière, voilà, le dernier, j'attends la réponse de la secrétaire, mais enfin, elle m'a dit normalement, ça devrait aller. Voilà, on verra. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais en fait, on ne devrait même pas. Enfin, je veux dire, la personne, elle travaille en clinique, donc il n'y a aucune raison qu'elle me prenne pas.
Bah en fait, oui, c'est sûr, ça devrait être, enfin, déjà dans les formations, ça devrait être inclus. Et après, dans tous les, oui, dans tous les lieux, en fait, tous les praticiens, médecins, quelle que soit leur spécialité, devraient pouvoir prendre bah, n'importe quelle personne, quoi qu'elle ait un handicap ou non.
Ben
Donc.
oui. Et voilà. Et du coup, c'est sûr que pour déposer plainte comme discrimination, ben c'est très compliqué quand le bâtiment il n'est pas accessible, quand le médecin voilà, se sent pas de nous prendre en charge, on va toujours nous rétorquer que mais non, c'est pas contre vous, mais c'est enfin, vous êtes quand même compliqué avec votre fauteuil. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup de condamnations pour discrimination à cause d'un fauteuil roulant, quoi. Alors que la couleur de peau, l'orientation sexuelle et tout, maintenant, il y a des condamnations. Parce que ça, c'est factuel. Alors que nous, voilà, nous, on n'est pas très normaux. Donc bon, bah, si jamais on nous discrimine, c'est pas très grave, quoi.
Puis de toute façon, si tu peux pas rentrer dans le commissariat pour porter plainte ou dans le tribunal pour être
Non,
présent pendant la décision de justice, bah au final, c'est pas fait non plus.
mais
Donc.
il y a eu des militants qui étaient en fauteuil et qui avaient bloqué la gare de Montauban, je crois, à Toulouse, un truc comme ça, qui du coup étaient allés au tribunal et le tribunal n'était pas accessible. Voilà, donc on juge les gens parce qu'ils ont fait une action contre l'accessibilité dans un lieu qui n'est pas tellement accessible. Puis alors apparemment le juge, ça l'a un peu gonflé quand même, hein. On ne va pas non plus faire des simagrées. Au pire, on juge, ils ne sont pas là, ce n'est pas très grave.
La société en a encore beaucoup à faire, mais bon, en tout cas,
Oui.
j'espère que ce podcast va avoir aidé, bon, en tout cas, beaucoup de personnes à prendre un peu conscience de ce que toi, tu peux vivre au quotidien et puis ce que nombreuses personnes dans ta situation peuvent vivre au quotidien.
Oui, je pense, je ne suis pas la seule. Hein.
Et voilà, j'espère que ça va aider à faire bouger les choses et puis en tout cas que voilà, ce sera la petite goutte d'eau qui va aider un petit peu à avancer.
Eh ben,
Merci.
merci à toi, en tout cas.
Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis j'espère que ben, très bientôt tu auras une réponse positive d'un gynécologue pour obtenir ta
Ouais,
stérilisation.
j'espère aussi parce que là, ça fait, enfin, c'est vraiment quelque chose que je rêve depuis pas mal d'années et qui sera quand même vraiment libératoire, quoi. Mais voilà, comme on dit, Jacques.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Vous pouvez vous inscrire via le formulaire sur le site ou en suivant le lien en bio sur Instagram. Je vous souhaite un très bon mois et à très vite.